peut-être légèrement positif. On ne sait pas parce que c'est des comptes qui sont juste à 3% près. Donc, si un excédent de 1 ou 2% peut être un déficit de 1 ou 2%. Mais de toute façon, nous sommes toujours dans des excédents ou des déficits de 1 ou 2% à comparer au déficit du budget de l'État. Ça n'a rien à voir. Nos institutions de sécurité sociale, ça je le dis avec fermeté parce qu'il y en a marre de ce prétendu trou de la Sécu, sont des institutions financièrement extrêmement saines. Extrêmement saines. Il peut y avoir des conjonctures dans lesquelles il y a un déficit, mais qui sont suivies de conjonctures dans lesquelles il y a un excédent. Pour la retraite, par exemple, il y a eu des tas de phases excédentaires. Arrêtons d'introduire tout dans le débat public un prétendu trou de la Sécu. Cela dit, s'il y a un problème de financement, c'est parce que depuis 1996, le taux de cotisation ne bouge plus.
Patronale,
il y a un gel.
Patronale.
Il y a un gel, ben, le salarié aussi.
Donc, selon vous, il n'y a pas de déficit du système
il n'y a
de retraite.
Aucun déficit structurel du système de retraite. Et si nous voulons assurer les déficits conjoncturels que nous trouvons, il suffit d'affecter une part minime de la croissance du PIB à une hausse du taux de cotisation patronale, ce que nous avons arrêté depuis 1996. Pendant 50 ans, de 1945 à 96, vous avez eu une hausse permanente du taux. Il est passé de 8 à 26% du salaire brut. Et depuis 96, nous sommes dans une espèce de tabou. Pas de hausse du taux de cotisation patronale. La hausse du taux de cotisation salarié serait tolérable à condition, bien sûr, qu'il y ait une hausse du brut. Hein. Mais de toute façon, en absence de hausse du brut, la hausse ne peut être que du taux de cotisation patronale pour que les salariés récupèrent une partie de la croissance. La crise actuelle vient du fait de la modération salariale, comme on dit, qui s'est traduite par à la fois une faible progression des salaires, 0,5 à peu près pour 100 par an, alors que le PIB augmente de 1,5 par an, ça veut dire que les salariés ne récupèrent que le tiers de la croissance. Le reste va au profit. À cause également du gel du taux de cotisation patronale, qui fait que le salaire total, qui est le salaire direct plus les cotisations, n'augmente pas autant qu'il le devrait. La crise, elle vient de cela, celle qui a suscité la spéculation. Ça vient de ces profits générés par la modération salariale. Nous sommes aujourd'hui en train de nous voir imposer de payer le fruit de la modération salariale, précisément. C'est bien pour ça que la seule réponse par le haut à la crise actuelle, c'est d'augmenter massivement les salaires en augmentant le taux de cotisation.
Ah oui, vous êtes un révolutionnaire. Parce que c'est pas du tout ça qu'on est en train de faire. On est en train d'imposer la rigueur. Il y a un plan en Grande-Bretagne de rigueur extrêmement vigoureuse, et c'est ce qui est en train de se passer en France. Vous pensez qu'il faut augmenter au contraire les salaires ?
Mais bien sûr, puisque la cause de la crise, c'est la modération salariale. Nous avons une baisse de 10 points des salaires dans le PIB qui s'opère dans la décennie dramatique des années 80, d'accord, et qui est restée. Nous sommes toujours à 10 points en dessous de ce que nous avions au début des années 80. Ces 10 points qui représentent quand même 200 milliards d'euros par an, sur un PIB de 2000 milliards, il manque. Et il faut les retrouver, parce que cette insuffisante progression des salaires qui fait qu'il y a crise, c'est ça l'origine fondamentale de la crise.
Et le chômage là-dedans, quel est son rôle ? Puisque qui dit chômage dit moins d'emploi, donc moins de cotisations, y compris pour les retraites.
Oui, bien sûr, ça, bien sûr. Mais encore une fois, la question du chômage est absolument liée à celle des salaires, c'est celle de la place accordée aux salaires dans le PIB. Si on accorde plus de places, tout à la fois, on augmentera le nombre d'emplois et on améliorera les salaires. Donc ça, les deux choses sont absolument liées.
Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière cette histoire ? Il y a un projet de réforme, mais on voit bien que derrière ça, il y a d'autres enjeux de nature politique et de nature idéologique.
J'ai présenté dès le départ un des enjeux fondamentaux, qui est de créer une masse de population en situation de faiblesse sur le marché du travail. Puisque, évidemment, l'objectif de la réforme n'est pas que nous travaillions plus sur quels emplois. La durée du travail moyenne, elle diminue plutôt. Et c'est tant mieux, parce qu'encore une fois, nous travaillons de moins en moins pour produire de plus en plus. Donc, en aucun cas, il s'agit que nous travaillions davantage ou plus longtemps. Depuis 1993, hein, où les mesures d'augmentation des durées de cotisation sont censées pousser les gens à travailler plus longtemps, nous avons 17 ans de statistiques, il n'y a pas de prolongement de la durée d'activité. La cessation d'activité se fait toujours actuellement à moins de 50 59 ans, on est à 58 ans et 9 mois. En revanche, quel est le résultat de la réforme ? C'est que la liquidation de la pension est retardée. Actuellement, il est à 61 ans et demi. Il y a déjà, en moyenne, près de 3 ans de no man's land où on n'est ni sur un salaire normal, dans un emploi normal, ni retraité. Pour les femmes, c'est bien pire. Parce que les femmes n'ayant pas une carrière complète, beaucoup moins que les hommes, elles sont particulièrement victimes de la décote, qui est un truc